Bonsoir. Comment allez-vous en cette grosse période de vacances scolaires? Que faire de 15 jours de vacances? Rien. Rien n'existe pas vraiment, c'est comme le vide, dont on sait maintenant qu'il est plein. De même que le vide est plein, l'inactivité est active. Connaissez-vous Andrew Smart? Cité dans un supplément du journal Le Parisien. C'est un neurobiologiste américain qui écrit que lorsqu'on se repose, le cerveau en mode pilote automatique ouvre des connexions entre des régions normalement trop occupées pour communiquer entre elles. C'est à ce moment-là que peut émerger la créativité. Parce que si nous sommes toujours concentrés sur des choses à faire, notre cerveau réagit en lâchant des hormones de stress qui entravent notre capacité à penser. Je ne sais pas si ça rassure ou si ça fait peur. Peur parce que la menace du stress bloquant fait stresser. Mais rassurant de savoir qu'on est particulièrement rentable en ne faisant rien. Vous connaissez la réponse que Mozart a faite à l'un de ses prestigieux sponsors qui lui avait commandé une symphonie et qui s'inquiétait de ne voir toujours rien venir. « Ça y est, elle est faite, monseigneur !» lui répond Mozart. « Il ne me reste plus qu'à l'écrire. »
« Bonjour, je m'appelle Célia, j'ai 9 ans et je voudrais savoir si c'était possible de ne penser à rien. Merci, au revoir. »
Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, a écrit, enfin c'est un ouvrage collectif, vous l'avez dirigé, « Apprendre à lire des sciences cognitives à la salle de classe » et c'est édité chez Odile Jacob. « Penser à rien, est-ce que c'est juste possible ?» demande Célia.
Eh bien Célia, les scientifiques qui sont parfois de grands enfants se sont posé la question et ils ont utilisé les machines d'imagerie cérébrale les plus sophistiquées, en particulier l'IRM, pour examiner ce que fait le cerveau lorsqu'on demande à une personne de ne penser à rien. La personne s'allonge dans la machine, on lui dit « restez là pendant 10 minutes et puis vous n'avez rien de spécial à faire, reposez-vous ». Et on regarde quelle est l'activité de son cerveau. Eh bien, la découverte a été que le cerveau n'est jamais inactif. Jamais. Il y a énormément d'énergie qui est consommée en permanence par le cerveau. En fait, c'est 20% de l'énergie du corps au repos qui est consommée par le cerveau. Et cette énergie se traduit par des activités cérébrales qui fluctuent en permanence et qui ne s'arrêtent jamais. Et on le voit parce que donc à un instant donné, une région cérébrale va s'allumer. Souvent, c'est un réseau avec plusieurs régions distribuées dans le cerveau qui vont s'allumer en même temps. Et puis, la seconde d'après, ce réseau-là va s'éteindre. Un autre va se rallumer. Un troisième va s'allumer un petit peu plus tard. Et ces réseaux se ressemblent chez différentes personnes. Donc, on commence à pouvoir les classifier. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Mais on peut essayer de mettre en rapport l'activité du cerveau avec ce à quoi la personne a pensé, si elle peut nous dire après coup. Et très souvent, on s'aperçoit que il y a un réseau bien particulier qui a à voir avec l'introspection, la réflexion sur soi-même. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait par le passé? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Comment je me situe par rapport aux autres? Toutes ces pensées introspectives font appel à un réseau bien particulier. Et souvent, c'est ce réseau qu'on appelle par défaut. C'est-à-dire qu'on revient à ce réseau-là quand on a fini les autres tâches qu'on nous a demandé de faire.
C'est un espèce de fond d'écran du cerveau, cette introspection. Même quand il n'y a pas un sujet défini, il y a toujours ça en permanence.
Le cerveau se définit ses propres buts. Il ne s'arrête jamais d'avoir une activité. On l'appelle aussi activité spontanée en neurosciences. C'est une propriété extraordinaire du cerveau d'être un organe toujours actif. Le cerveau ne s'arrête jamais. Et même dans le sommeil, on pense tous que le sommeil, ça consiste à se reposer, à arrêter finalement de penser. Mmh. Pas du tout. Il y a bien entendu le rêve qui est une forme de pensée.
Tant on est très, très, très actif dans le rêve.
Et là, on est extrêmement actif. Mais même les autres périodes du sommeil, on est en train de se rendre compte que le cerveau n'est pas du tout inactif et que cela correspond à un traitement de l'information. C'est-à-dire que les informations qui ont été traitées à l'état de veille sont retraitées par le cerveau dans le sommeil. Et on peut dire que le cerveau fait tourner un algorithme de consolidation des apprentissages pendant la nuit, comme vous pourriez avoir dans un ordinateur. Le cerveau n'est pas un ordinateur, mais ce que vous avez appris la veille, eh bien, lorsque vous dormez dessus, vous allez vous réveiller le lendemain matin avec un cerveau qui le sait mieux le lendemain que la veille. Vous voyez, si on mesure la performance effective des gens dans des tâches qui peuvent être motrices, par exemple, ils font mieux juste parce qu'ils ont dormi dessus. Et il y a aussi la découverte de régularités nouvelles. Il a été très bien démontré maintenant en laboratoire, ce que beaucoup de mathématiciens disent. J'ai trouvé la solution en me réveillant. Eh bien, on peut montrer effectivement que le cerveau cherche des solutions à des problèmes qui sont restés ouverts la veille et que pendant la nuit, il va parfois trouver la bonne solution.
La nuit porte conseil et franceinter.fr vous donnera les parutions du docteur Stanislas Nehan. Dans les petits bateaux ce soir, nous saurons comment sont financées les stations de radio, ce que signifie la fameuse formule E égale MC2 et à quel âge on arrête d'être un enfant, en principe.
Bonjour, je m'appelle Clara, j'ai 12 ans et je voudrais savoir pourquoi pigeons, poules et autres volatiles balancent la tête quand ils marchent. Merci de me répondre.
Bonsoir Clara, merci pour ta question que nous proposons à Guilhem Le Saffre, qui est administrateur du CORIF, le Centre Ornithologique d'Île-de-France. Cette histoire, alors, dont parle Clara, de tête qui dandine.
Oui, c'est vrai que quand on voit marcher des poules, quand on voit marcher des pigeons, on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils avancent et reculent sans arrêt la tête?
C'est bien vu, Clara, quand même.
Elle est tout à fait observatrice, je te félicite, Clara. Mais alors, je vais te répondre. C'est un sujet qui a agité les scientifiques, qui se sont posé la question. Et alors, la meilleure réponse qu'on ait trouvée, parce qu'elle n'est pas encore tout à fait déterminée, mais je te la donne, c'est que ces oiseaux-là ont les yeux sur les côtés de la tête. Et par conséquent, ils n'ont pas ce que nous avons, nous, c'est-à-dire une vision binoculaire. Nous avons les deux yeux sur le même plan, ce qui nous permet d'avoir une vision du relief. Mais comme les oiseaux ont très souvent les yeux, sauf les chouettes et les hiboux naturellement, ont les yeux sur les côtés de la tête, ils n'ont pas cette vision binoculaire. Par conséquent, pour avoir une perception du relief, ils ont besoin d'avoir deux images. Donc voilà pourquoi on pense qu'ils avancent et qu'ils reculent la tête pour avoir, en une fraction de seconde, deux images du même objet et donc une vision du relief.
Ah, c'est astucieux. Mais alors le cheval, il a moins sur les côtés quand même que l'oiseau, peut-être ses yeux, le cheval.
Oui, mais là moi, je suis spécialiste des oiseaux. N'est-ce pas, Noël? Pas des chevaux.
Effectivement, la spécialité de Guilhem Le Saffre, ce sont les oiseaux.
C'est un pan perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse le centre mêler tes cils. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. Ce n'est pas Paris et ce n'est pas Londres. Ce n'est pas Berlin. Je t'emmène sous la terre.
C'était La Baie de Clara Luciani, une reprise en français du titre de Métronomique qui s'appelait The Bay. Moi, j'aime bien ce genre de traduction.
Les petits bateaux sur France Inter.
Denis Marquet est philosophe, thérapeute et écrivain.
Bonjour, je m'appelle Octave. J'ai 7 ans et demi et je voudrais savoir à quel âge on arrête d'être un enfant. Merci.
Il y a peut-être un petit peu d'âge de raison au fond de ta question, Octave. Je ne sais pas, je brode. Octave, en tout cas, nous avons proposé ta question à Denis Marquet. Denis Marquet, vous êtes philosophe, vous êtes thérapeute, vous êtes écrivain. Et vous avez écrit justement « Nos enfants sont des merveilles », édité chez Nil. À quel âge on arrête d'être un enfant, demande Octave.
Bien, Octave, si tout se passe bien, dans un premier temps, je peux te répondre qu'on n'arrête jamais d'être un enfant. C'est-à-dire que si tout va bien, toutes les qualités qui sont celles de l'enfance, c'est-à-dire cette vitalité extraordinaire, cet enthousiasme pour les choses, cette ouverture au nouveau, cette créativité aussi, cette joie de vivre, cette capacité à jubiler, tout ça, eh bien, c'est quelque chose, si tout va bien, encore une fois, je le répète, que l'on garde. C'est-à-dire qu'on garde toujours une part d'enfance en soi, et plus on la garde, et plus on est heureux dans la vie. Maintenant, enfant, ça veut aussi dire quelqu'un qui est dépendant de ses parents, et ça veut aussi dire quelqu'un qui ne connaît pas le monde. Et à mesure que tu grandis, en ce sens-là, eh bien, tu deviens de moins en moins un enfant, parce que tu connais de mieux en mieux le monde, et puis tu es de moins en moins dépendant de tes parents, dépendant financièrement, bien sûr, ça cessera quand tu gagneras ta vie, mais aussi dépendant affectivement, dépendant pour te déplacer, etc. etc. Et ça, ça sera de moins en moins. Peut-être que tu peux déjà aller tout seul à l'école, ou bientôt tu pourras y aller. Ben là, tu es moins un enfant qu'avant, où tu avais besoin qu'on t'y accompagne, etc. etc. C'est-à-dire qu'à mesure que tu grandis, tu gagnes en autonomie, et en ce sens-là, tu es de moins en moins un enfant. C'est-à-dire que tu es de plus en plus un adulte. Et quand tu seras pleinement un adulte, on pourra dire en un certain sens que tu n'es plus un enfant, au sens de la dépendance et de l'ignorance, mais si tout va bien, je le répète, en devenant un adulte, eh bien, tu resteras un enfant dans le sens de toutes ces qualités merveilleuses de l'enfance. L'enfant, il connaît peut-être pas le monde, mais il connaît la vie, il a la vie en lui, et là, les adultes ont besoin de s'inspirer de lui.
Je vous le donne, je sais, à chaque fois je fais la même réflexion, mais je ne peux pas m'en empêcher. Nos enfants sont des merveilles, c'est le merveilleux titre du livre de Denis Marquet.
Bonjour, je m'appelle Roxane, j'ai 10 ans, et je voudrais savoir que signifie la formule E égale MC2. Merci, au revoir.
E égale MC2, merci Roxane. David Loipre, vous êtes chercheur en physique, mais ce qui nous intéresse ici au Petit Bateau, c'est que vous êtes surtout vulgarisateur scientifique. Vous avez écrit chez Flammarion, Insoluble mais vrai, et puis vous avez une chaîne de vulgarisation qui s'appelle Science Étonnante, une chaîne YouTube. Alors E égale MC2, c'est vrai que tout le monde connaît cette formule, comme le dit Roxane, mais après on sait pas grand-chose en fait, nous profanes.
Et oui, bonsoir Roxane, je vois que même à 10 ans, tu connais déjà la formule la plus célèbre de toute la physique, hein, E égale MC2, et pourtant c'est une formule qui est en fait assez compliquée à comprendre, à interpréter. Alors, je vais essayer de vous en donner quelques clés. Une des raisons pour laquelle on la connaît, c'est que cette formule, on la doit principalement à Albert Einstein, hein, donc c'est une des choses qui l'a fait passer à la postérité. Et si on regarde un peu qu'est-ce qu'on trouve dans cette formule, c'est une formule qui relie la masse, donc ça c'est le M de la formule, à son énergie, qui est le E. Alors tous les objets, alors quand je dis objet, ça peut être à la fois des objets tels qu'on les manipule nous au quotidien, mais le terme objet en physique peut désigner aussi des particules, des atomes, des molécules, un peu n'importe quoi. Donc cette formule nous dit
oui, un objet c'est pas forcément un grille-pain chez vous.
Voilà, exactement, pour un physicien, un objet ou un corps, c'est un peu ce qu'on veut. Et donc cette formule nous dit que la masse et l'énergie d'un objet sont reliées. Alors elles sont reliées par quoi? Elles sont reliées par C. Alors qu'est-ce que c'est C au carré? C'est la vitesse de la lumière. Donc la vitesse de la lumière, c'est une vitesse absolument faramineuse, hein. C'est 300 millions de mètres par seconde. Donc la lumière, ça va très très vite. Et en plus, dans la formule, on la met au carré, c'est-à-dire qu'on la multiplie par elle-même. Alors un petit calcul amusant que Roxane, tu peux t'amuser à faire, hein. C'est tu prends ta masse, je ne sais pas combien tu pèses, hein, en kilos, et puis tu le multiplies par la vitesse de la lumière au carré, c'est-à-dire que tu la multiplies par 300 millions, et à nouveau encore par 300 millions. Et là, si on croit à la formule, ça te donne ton énergie. Alors tu vas trouver un chiffre absolument monstrueux, énorme. Et on a du mal à croire que nous, on puisse contenir toute cette énergie. Alors, pour comprendre un peu l'origine de tout ça et cette formule, en fait, de façon assez étonnante, cette formule, elle est passée à la postérité sous une forme qui n'est pas vraiment la forme la plus pratique. On dit souvent E égale MC2. Et en fait, une manière de réécrire cette formule, c'est de la diviser par C au carré et de la réécrire M égale E sur C carré. Alors pourquoi je vous fais faire ça? Parce que si on regarde la formule de cette façon-là, elle est un peu différente. Elle nous dit que si on connaît l'énergie d'un corps, alors on peut trouver sa masse. C'est-à-dire qu'il faut plutôt la regarder dans l'autre sens. Ce n'est pas une formule qui nous dit si vous connaissez la masse, ça vous donne l'énergie. C'est une formule qui nous dit si vous connaissez l'énergie, ça vous donne la masse. Alors pourquoi? Parce que Einstein avait compris le premier, ce truc absolument incroyable, c'est qu'il avait compris ce que c'était vraiment la masse. Et donc Einstein avait compris que la masse, c'est une manière de mesurer toute la quantité d'énergie qui est contenue dans un corps. Alors il avait fait ça par ses calculs, hein, et donc il avait découvert que si on ajoutait de l'énergie à un corps, que ce soit une particule ou un objet du quotidien, on augmentait sa masse, et que si on lui retirait de l'énergie, on diminue sa masse. Alors c'est des choses qui ne sont pas visibles à notre échelle à nous, parce que c'est des variations qui sont beaucoup trop faibles, mais c'est des choses qui, par exemple, peuvent être utilisées pour faire de l'énergie nucléaire. En fait, c'est le secret, entre guillemets, de l'énergie nucléaire, c'est un peu dans la formule E égale MC2, c'est-à-dire que quand on prend des noyaux et qu'on les approche, ou alors au contraire qu'on les sépare, on peut faire changer leur énergie et leur masse, et cette énergie est libérée et nous permet de faire de l'énergie nucléaire.
Et voilà, la chaîne de David Loibre sera bien sûr sur le site des petits bateaux. À propos de E égale MC2, avez-vous lu le livre, il est archi en livre de poche, le livre de Patrick Covin, Feu Patrick Covin, qui s'appelle E égale MC2, mon amour. C'est charmant et tous les livres de Patrick Covin sont charmants et souvent très drôles.
There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch and it's bringing me out the dark. The sky. Thinking that we almost had it all. The scars are-
Rolling in the Deep, c'était Adèle. Adèle qui est anglaise. Vous connaissez le principe des petits bateaux. Des enfants posent des questions et nous, nous trouvons des spécialistes pour leur répondre.
Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 11 ans et j'aimerais savoir comment sont financées les stations de radio. Merci d'avance.
Bonsoir Alexandre, comment sont financées les stations de radio? C'est une question compliquée à laquelle on va vous demander de répondre en quelques minutes, Thierry Lefebvre.
Je vais essayer. C'est une question très intéressante parce que ça touche à l'économie de la radio. On a l'impression que la radio est gratuite, qu'elle arrive comme ça par l'opération du Saint-Esprit. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc en fait, si on prend juste le domaine français, il y a trois manières de rémunérer le fonctionnement de la radio, enfin de payer les frais. Prenons France Inter, qui fait partie d'ailleurs de Radio France, un groupe. Eh bien, France Inter, elle vit essentiellement, mais pas uniquement, grâce à ce qu'on appelle la redevance. La redevance, c'est une taxe que tes parents payent sur leur poste de télévision. Donc c'est une somme forfaitaire qui est prélevée chaque année et qui permet d'abonder, comme on dit, le budget de Radio France. Mais ça ne suffit pas. Et donc, il faut trouver de l'argent complémentaire. Et donc, pour France Inter, il y a de la publicité. Cette publicité apporte un supplément de revenus à la station. Et donc, ça, c'est le cas du service public. À côté, il y a des radios qui sont qualifiées de commerciales, comme RTL, Europe 1, mais également les stations musicales que tu écoutes peut-être, c'est-à-dire, je sais pas, Energy ou Skyrock. Et donc, ces stations, elles fonctionnent essentiellement grâce à la publicité. La publicité, ce sont des messages, comme tu l'as bien compris, émanant de produits divers qui essayent d'être vendus par cet intermédiaire. Plus il y a d'auditeurs, plus les tarifs de publicité sont élevé. Et donc, ça permet à certaines radios d'avoir des gros bénéfices et donc d'avoir une activité significative. Et mais il y a un troisième type qu'on oublie souvent, ce sont les radios associatives. C'est des petites radios qui sont généralement au statut de loi de 1901. C'est un vieux statut qui permet à des gens de se regrouper pour essayer d'avoir une activité généralement peu coûteuse.
Mais qui ne font pas de bénéfices.
Qui ne font pas de bénéfices, qui ne doivent pas faire de bénéfices ou qui doivent le remettre en jeu pour améliorer leur radio, en l'occurrence. Et les radios associatives vont bénéficier d'aides publiques. C'est ce qu'on appelle le... Alors c'est un terme un peu compliqué, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSER. Alors d'où vient cet argent? C'est une taxe sur la publicité commerciale, tout simplement. Donc une taxe qui n'est pas énorme, mais qui permet de donner à des sous qui sont ensuite répartis à toutes les radios qui sont de type associatif et qui peuvent faire de la publicité, mais très très peu. C'est plafonné de toute façon et c'est souvent une publicité à caractère local, de proximité.
Thierry Lefebvre a dirigé avec Sébastien Poulain l'ouvrage Radio Libre, 30 ans de FM, La Parole Libérée, édité chez l'Harmattan. Vous venez d'entendre une rediffusion des Petits Bateaux du 25 février 2018. Lire, c'est partir. Natacha Calestrémé nous emmène à Paris 15e. Ce n'est pas une destination de vacances très yop-yop, dirait Marjorie. Le héros est un pervers narcissique, de moins en moins yop-yop. Marjo, tu as raison. Mais c'est pourtant un bon polar qu'on lit jour et nuit. Quant au pervers, on en apprend sur lui des trucs et des drôles de trucs, et peut-être même bien des trucs utiles dans la vraie vie. Les blessures du silence sont éditées chez Albin Michel. Si vous avez encore faim et soif de réponses, vous pouvez réécouter ces petits bateaux sur franceinter.fr ou bien les podcaster. Notre répondeur qui recueille les questions des enfants pendant l'année après ses quartiers d'été, vous pourrez le rappeler à partir de septembre, mais nous reviendrons dimanche prochain à 19h30. Nous, c'est Marjorie Devoucoux, Eliane Girard, Jean-Baptiste Audibert, Noël Bréham. Lui, c'est Denis Chessou pour La Tulu, mon petit loup.